Radio Okapi.
Et voici notre grande édition dominicale vespérale. C'est avec Jocelyne Moussao.
Fusillade impliquant des casques bleus au poste de Kasindi à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. La chef de la MONUSCO s'est dit profondément choquée et consternée. Elle annonce l'arrestation des auteurs et des échanges avec leur pays d'origine pour l'ouverture urgente d'une procédure judiciaire et des sanctions dans les meilleurs délais. Nomination des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ainsi que des magistrats. Les ordonnances les nommant lues hier à la télévision d'État RTNC en réhabilite certains et envoie d'autres à la retraite. Notre invité ce soir, c'est le professeur Ursule Lelo Dimakungu, ministre provincial de l'Environnement, Mines, Communication, Presse et porte-parole du tout nouveau gouvernement provincial du Bazouélé, investi il y a une semaine. Il va s'exprimer sur les priorités de cette nouvelle équipe. Bonsoir à tous. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, vient d'apprendre avec stupéfaction l'incident grave qui s'est produit ce matin à Kasindi, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Au cours de cet incident, des militaires de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, de retour de congé, ont ouvert le feu au poste frontalier pour des raisons inexpliquées et forcé le passage. Cet incident grave a causé des pertes en vies humaines et des blessés graves. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, est profondément choquée et consternée par ce grave incident. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Alain Rung.
Ce qui s'est passé est absolument tragique et ne peut être justifié et pas du tout acceptable, surtout dans le contexte dans lequel nous nous trouvons maintenant et en plus par rapport à notre mandat de protection des civils. Le premier devoir que j'ai, et au nom de toute la mission et aussi avec la délégation de Monsieur Lacroix, c'est que nous devons vraiment présenter nos sincères condoléances pour ceux qui ont perdu la vie dans cet incident tragique et aussi pour souhaiter que ceux qui ont été blessés et sérieusement puissent se rétablir avec les meilleurs soins de la meilleure qualité pour un rétablissement plénier. Les mesures qui ont été prises très immédiatement, donc ces soldats ont été mis aux arrêts par le commandant de la force, parce que ce qui a été fait, et quand on regarde les images photos et vidéos, c'est absolument pas acceptable de voir la manière dont ça s'est déroulé.
À Butembo, un calme a été observé ce dimanche à travers la ville. C'est après une vive tension qui a vécu la veille suite à l'enterrement des 9 jeunes morts mardi dernier lors des altercations devant la base de la MONUSCO au quartier Kambali, commune de Voulamba, pour exiger son départ. Les victimes ont été enterrées hier samedi au cimetière de Kitatumba. La 10e, elle, était déjà conduite dans un cimetière familial. C'est suite à cette situation que la délégation conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivée à Butembo ce dimanche. Elle a rencontré la société civile, le groupe de pression et les familles des victimes. Daniel Asselo appelle la population au calme et assure que les recommandations formulées par cette dernière sont en étude par le gouvernement. Pour sa part, le président de la coordination urbaine de la société civile, pasteur Matt Saanane, appelle la population à vaquer à ses occupations quotidiennes à partir de demain, lundi. 3 ans après la fermeture de la base de la MONUSCO de Dungu dans la province du Haut-Ouélé, que sont devenues les installations de la mission onusienne dans les chefs-lieux de ces territoires? Pour s'en rendre compte, Radio Okapi s'est rendu dans la zone pour se faire une idée. Notre reporter est allé visiter l'ancien quartier général de la MONUSCO de Dungu. Je vous propose de suivre ce reportage de Jean-Claude Loki.
C'est le 11 août 2019 que la MONUSCO avait plié bagage de Dungu. C'est après une cérémonie officielle de remise aux autorités locales des bâtiments et d'autres matériels dont se servait la mission onusienne pour son fonctionnement. Parmi ces biens cédés aux autorités locales, il y avait entre autres les maisons préfabriquées où fonctionnait le quartier général de la MONUSCO à Dungu. Aujourd'hui, c'est un endroit abrite de l'Institut supérieur de technique de développement. Et sur place, nous avons rencontré le chef des travaux Jean Anamango, directeur général de cette institution qui reconnaît que ces maisons laissées par la MONUSCO rendent d'énormes services à la communauté. communauté.
Ça aide la communauté parce que c'est une grande agglomération et il y a aussi d'espace. C'est Corimec qui nous sert pour d'abord les auditoires, ensuite aussi ça nous aide aussi comme des homes pour les étudiants. Et nous avons aussi des bâtiments administratifs pour l'institution, en tout cas c'est suffisant.
Certaines pièces sont délabrées à cause des intempéries, d'autres n'ont plus de fenêtres, plus d'installations électriques. Le responsable de cette institution publique avoue qu'il est difficile de remettre en service toutes les salles faute de moyens. Il sollicite le concours du gouvernement pour réhabiliter ce site qui forme des étudiants venus de plusieurs coins du pays et même de l'étranger. Parmi d'autres réalisations de la MONUSCO dans cette région, on peut citer la réhabilitation de plusieurs axes routiers dont certains sont encore dans un bon état. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Le président de la République a signé hier samedi plusieurs ordonnances nommant des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès de plusieurs pays. Ces ordonnances, qui ont été publiées hier samedi sur la télévision de l'État RTNC, nomment aussi des magistrats, en réhabilitent certains et envoient d'autres à la retraite. Alain Irung nous en dit plus.
Flori Kabange Numbi et Mumba Mukomo sont envoyés à la retraite. Le premier président du Conseil d'État, Vundwa Wetepe Mako Félix, a également été mis à la retraite. Marthe Odio remplace le professeur Vundwawe à la tête du Conseil d'État. Jérôme Kitoko, ancien président de l'ancienne Cour suprême de justice, a été mis à la retraite. Vondema Mbufirmin, nommé procureur général près la Cour de cassation, en remplacement de Mumba Mukomo, mis à la retraite. Iluta Ikombe, nommé procureur général près le Conseil d'État. Évariste Funga, ancien juge à la Cour constitutionnelle, nommé parmi les présidents au Conseil d'État. Raphaël Yanni, décédé après avoir entamé le procès de 100 jours, a été admis à titre posthume avec tous les avantages premier président de la Cour d'appel.
Le rapporteur du collectif des magistrats dont les ordonnances ont été rapportées le 14 avril 2018 exprime leur reconnaissance au chef de l'État pour avoir régularisé leur situation à travers ces ordonnances présidentielles publiées hier samedi. Ils l'ont dit ce dimanche dans une déclaration à Radio Kapi. On écoute les magistrats Baudouin Loukodi, rapporteur de ce collectif, joint par Alain Irung.
Effectivement, nous sommes aujourd'hui une catégorie des citoyens congolais très comblés de joie. Il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et le magistrat suprême, de nous réhabiliter à notre statut de magistrat. C'est depuis 12 ans pour les uns, 4 ans et demi pour les autres que finalement notre lutte a abouti aujourd'hui. Et donc nous implorons sur son excellence, monsieur le président de la République, toutes les grâces divines possibles pour qu'il puisse redresser la situation de la RDC particulièrement. À rendant justice aux dépourvus.
Plainte contre la gouverneure du Tanganyika à la Cour de cassation pour fraude électorale. La plainte a été déposée vendredi par Chimangangandu Ogelor via son conseil, maître Richard Batuli. D'après cette plainte, la gouverneure du Tanganyika est accusée de n'avoir pas mentionné dans son casier judiciaire qu'elle avait été arrêtée pour faux usage de faux, puis condamnée et emprisonnée. Elle devait donner ses renseignements dans les actes déposés au dossier à la CENI pour son élection au poste de gouverneur de la province du Tanganyika. Le point avec Paulin Munanga.
Selon la plainte déposée à la Cour de cassation, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a caché aux députés provinciaux qui l'ont élu gouverneur tous les démêlés judiciaires qu'elle a eus entre 2014 et 2020. Et dans la plainte, on précise qu'au regard des prescrits contenus dans l'article 10 de la loi numéro 22/022 du 29 juin 2022, portant organisation des élections, Madame Julie Ngungwa Mwayuma ne pouvait pas être éligible au poste de gouverneur au regard de sa conduite et mœurs. L'avocat conseil précise dans la plainte qu'elle fut placée sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général de Lubumbashi en date du 10 mars 2014 avant d'être remise en liberté provisoire. Elle était poursuivie du chef d'escroquerie et faux et usage de faux sur la Brasimba. De son côté, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, que nous avons contactée, promet de réagir à cette plainte. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Kapi.
La femme africaine célèbre sa journée le 31 juillet de chaque année. Celle de cette année est commémorée dans un contexte de conflit, de haine et de l'intolérance entre les individus. Quel est le rôle de la femme africaine pour consolider le vivre ensemble entre les communautés en dépit de leurs différences? La coordonnatrice de l'organisation qui œuvre pour la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs, Célébrons le courage de la femme, exhorte la femme africaine, congolaise et celle du Sud qui rappelez-vous en particulier à ne pas céder à la manipulation identitaire. Armel Katembera veut une femme africaine qui œuvre pour la promotion de la paix. C'est ce qu'elle dit au micro de Jean Kassami.
Effectivement, le seul message que je pouvais passer, c'est d'appeler nos sœurs et nos mamans, surtout de la région de Grand Lac, de la RDC et celles du Sud Kivu en particulier, de ne pas céder à la manipulation et de ne pas aussi manipuler nos jeunes enfants, nos jeunes frères et sœurs à perturber le climat de la cohabitation pacifique dans la région de Grand Lac. C'est-à-dire, je voulais insister beaucoup plus à nos sœurs et aussi à nos mamans d'insister beaucoup plus dans la lutte contre les manipulations identitaires en cette période où la manipulation est à la une. Tout le monde regarde la position ou bien la forme du nez, la teinture de l'autre, et ça, ce n'est pas et ça n'a jamais été la femme africaine. En cette journée, je voulais que nos mamans, nos jeunes filles et nous-mêmes, nous toutes, je prends aussi les hommes, de nous mettre ensemble pour voir comment on peut lutter contre les différentes manipulations identitaires dans la région des Grands Lacs.
Dans la province de la Tchopo, la population est appelée à lutter contre la traite des personnes sous toutes ses formes et à envoyer les enfants à l'école. C'est le principal message lui adressé par les différents intervenants à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite. C'était hier à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Cette manifestation a été organisée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, un service spécialisé de la présidence de la République. Jacques Moukonkolé.
Plusieurs personnalités ont pris part à cette commémoration, notamment la délégation de la présidence de la République, conduite par le directeur de cabinet adjoint, Madame Nicole Boitia, la coordonnatrice de l'ALP, Cécile Meta, le gouverneur des provinces par intérim, les autorités militaires et judiciaires, les autorités académiques, les étudiants et autres invités. Les différents intervenants de la présidence ont rappelé les contextes et la justification de l'institution de cette journée par les Nations Unies et le choix de la ville de Kisangani pour cette cérémonie. Ensuite, ils ont rappelé les différentes formes de traite, notamment l'exploitation sexuelle, les travaux forcés, le trafic des organes humains et autres formes de maltraitance des personnes humaines. Ceci constitue une violation des droits de la personne, ont-ils martelé. Ainsi, ils ont appelé la population à lutter contre ces pratiques et à protéger les victimes. Pour sa part, le gouverneur des provinces, par intérim, a stigmatisé le danger de la traite des personnes, car elle constitue un frein pour le développement social. Maurice Abibou Sakapela a aussi appelé les parents à profiter de la gratuité de l'enseignement en envoyant leurs enfants à l'école. Jacques Moukonkolé, Kisangani.
Avant de retrouver l'actualité internationale, rendons-nous dans la province du Maniema où les habitants du quartier incorporé Mouzelela dans la commune d'Alungouli font face aux difficultés de manque de sources d'eau potable et de marchés pour se procurer des produits alimentaires de première nécessité. Ces difficultés ont été révélées ce week-end par les chefs d'avenue et des blocs au cours d'une rencontre avec la députée coptée Aziza Omari Mouzelela. Vu la saison sèche que traverse la province du Maniema, il est donc plus important que les autorités provinciales s'activent pour que la population ne soit pas victime des maladies d'origine hydrique, pense la députée, comme nous le rapporte ici Florence Kizalunga.
À part ces problèmes cités si haut, ces chefs ont évoqué l'insécurité et le manque de considération dont ils sont victimes par d'autres services, bien qu'ils représentent l'autorité provinciale dans leurs juridictions respectives. L'un d'eux parle au nom de ses collègues.
Vous savez, les problèmes sécuritaires actuellement, c'est le problème majeur. Les chefs des différentes avenues ont essayé un peu de poser les différentes questions par rapport à la sécurité. Ils ont eu l'occasion d'avoir certaines stratégies qui pourront leur permettre de bien travailler dans leurs entités respectives. Parce que un chef d'avenue, c'est celui qui connaît toutes les réalités qui se passent dans son avenue. Et vous savez, les mouvements d'entrée et de sortie dans un milieu, c'est le chef d'avenue qui est en train de contrôler.
Consternée, la députée Aziza Omari Mouzelela demande l'intervention rapide du gouvernement provincial avant de promettre de faire rapport à l'Assemblée provinciale du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Deuxième tour de vote pour les législatives au Congo-Brazzaville. Après les forces de défense et de sécurité mardi dernier, place au vote général ce dimanche pour le deuxième tour des législatives. Le 10 juillet dernier, le premier tour a été remporté par le Parti congolais du travail au pouvoir depuis 1977, qui a obtenu 102 sièges sur le 151 sièges de l'Assemblée. Ce deuxième tour concerne 25 circonscriptions où l'on note quelques chaudes empoignades. Au Burkina, toute personne qui se trouverait dans une zone d'intérêt militaire sera considérée comme hostile. Les opérations anti-djihadistes dans les zones d'intérêt militaire, ces parcs forestiers protégés situés dans les régions du Sahel et de l'Est du Burkina Faso vont bientôt débuter. Des populations s'y étaient installées de manière illégale, occasion saisie par les groupes armés terroristes pour s'y réfugier, selon les responsables de forces armées burkinabées. Ces opérations auront pour but d'assainir ces sites à partir desquels les groupes armés mènent des attaques sur les territoires nationaux.
L'invité.
Notre invité dans cette édition sera le professeur Ursule Lelo Dimakango, ministre provincial de l'Environnement, Mines, Communication, Presse et porte-parole du tout nouveau gouvernement provincial du Bazoélé, investi il y a une semaine. Il va s'exprimer sur les priorités de cette nouvelle équipe au micro de Jean-Marc Matouaki.
Ursule Lelo Dimakango, bonjour.
Bonjour.
Le tout nouveau gouvernement provincial de Bazoélé a été investi le 23 juillet 2022, un gouvernement constitué de 10 personnes, et parmi les priorités de ces gouvernements, l'agriculture est la priorité des priorités. Pourquoi et comment comptez-vous vous y prendre pour justement relever ces défis?
Effectivement, c'est à la fois une opportunité aussi un défi, mais nous allons utiliser l'approche stratégique, transformer nos faiblesses en forces. Et cela passe par l'opérationnalisation du pilier stratégique du gouvernement provincial, à savoir le renforcement de l'autorité de l'État et la promotion de la bonne gouvernance, de la base au sommet, le développement du capital humain et accès aux services sociaux de base, la réhabilitation des infrastructures routières, le développement et renforcement des champs de valeur agricoles. Il y a également l'amélioration du climat des affaires et croissance économique. Pour être vraiment plus direct par rapport à votre préoccupation, c'est que nous sommes en train d'inverser le paradigme sur le développement agricole. C'est l'agriculture familiale qui est au centre de notre action. Et à côté de cette agriculture familiale, nous allons structurer avec l'appui de la province et de l'approche de suivi d'investissement et de ces lits de projet rattachés au cabinet de son excellence, monsieur le gouverneur de province, du Bazoélé, qui est un ingénieur. Et c'est génie qui a beaucoup travaillé, même dans les sociétés multinationales sud-africaines. Et il a une expérience et ce n'est pas un stagiaire à la tête de la province. C'est un génie qui se connaît et s'il a réussi à faire des exploits ailleurs, il n'y a pas de plus noble service que de rendre service à sa nation et à sa province. Et nous allons mouiller les maillots pour voir dans quelle mesure structurer le paysan à travers des coopératives agricoles.
Pour parler du volet environnement, la province de Bazoélé occupe les 10% de la couverture forestière de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC est considérée comme pays solution face à tous ces problèmes liés au changement climatique et à l'environnement. Comment comptez-vous jouer ces rôles pour amener la RDC à relever ces défis?
Nous sommes déjà à pied d'œuvre en train de faire l'état des lieux et essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment le Bazoélé peut retrouver sa place dans l'orbite des provinces forestières, parce que nous occupons essentiellement une des places stratégiques au niveau de la République, parce que nous revendiquons la propriété d'environ 10% de notre couverture forestière, mais les retombées ne sont pas de nature à justifier ce que nous avons comme maigre dividende, et je crois que la responsabilité est partagée. Nous avons déjà l'impulsion au niveau du ministère national et je crois que c'est déjà un atout.
La province de Bazoélé est située à l'extrême nord de la République démocratique du Congo, frontière du Soudan du Sud et de la République centrafricaine. On va dire que c'est une position qui est favorable par rapport à l'ouverture du pays aux différentes zones d'Afrique.
Effectivement, nous sommes la clé des voûtes du développement de l'Afrique centrale. Et si Frank Zanon disait que l'Afrique a la forme de revolver et dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, et nous, tout en paraphrasant, le même auteur, nous dirons que nous sommes la gâchette du développement à la fois de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous nous trouvons dans la jonction de ces trois régions, dans la mesure où nous avons des routes transafricaines, nous avons des routes d'intérêt continental qui mènent vers la République centrafricaine en passant par Ndou, et nous avons aussi des routes que nous partageons avec la province serre du Haut-Touélé pour relier le pays de l'Afrique de l'Est. Lors de l'indépendance, la voie ferrée s'est arrêtée juste à côté du parc de Garamba, parce que dans le projet du Congo belge, c'était de relier le port d'Akéti qui se trouve au Bas-Ouélé, dans le territoire d'Akéti. Et pour votre information, c'est le deuxième port de la République démocratique du Congo après le port de Matadi.
Ursile Lelo Di Makungu, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci pour l'invitation.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Alain Irung et mis en onde par Polydor Basunga. Merci de l'avoir suivi.